France Culture.
Willkommen, bienvenue, welcome dans les Midis de Culture, bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec Louis Chédid qui est en tournée pour son 18e album. Mais tout de suite, place au point culture de Sophie-Catherine Gallet. Bonjour Sophie-Catherine.
Bonjour Marie. La semaine dernière étaient annoncées les nominations au César, L'amour ouf, Emilia Pérez, Le Comte de Monte Cristo. Tous ces films présents dans les catégories phares ont un point commun. Ils sont adaptés ou inspirés de romans. Alors cette tendance n'est pas nouvelle, mais particulièrement visible cette année. Un point sur ce phénomène. C'est notre dossier du Point Culture du jour. Jessino, bonjour.
Bonjour Sophie-Catherine Gallet.
Vous êtes maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université de Poitiers et vous êtes l'auteur de Littérature et écran paru en 2025. Alors dans une étude commandée par le CNL sur le sujet des adaptations en France, on apprend qu'entre 2015 et 2021, 1411 œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites étaient des adaptations. Quelle est finalement la proportion par rapport aux œuvres originales? Est-ce qu'on est sur une forme d'égalité ou peut-être au contraire, depuis 2021, il y a un déséquilibre grandissant, Jessino?
Alors, donc en fait, selon cette étude du Centre national du cinéma, on a pu constater qu'un film sur cinq qui sort aujourd'hui en France est une adaptation. Donc, le scénario original prime quand même, mais c'est un chiffre qui est en augmentation. Et en fait, on peut attribuer cette augmentation à un rapprochement qui s'est opéré depuis une quinzaine d'années environ entre l'édition et le cinéma, notamment par des initiatives comme le festival Shoot the Book, qui se déroule à Cannes chaque année, et qui a été créé par la Société civile des éditeurs de langue française. Donc, encourager l'adaptation, c'est vraiment une des missions de cette société qui regroupe plus de 300 maisons d'édition, qui organise aussi les rencontres de l'audiovisuel, qui se déroulent chaque année au Salon du Livre. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment une professionnalisation des droits d'adaptation pour le secteur du livre. Il y a eu plusieurs protocoles qui ont été signés, notamment, qui permet à des œuvres littéraires d'être adaptées beaucoup plus rapidement au cinéma, par exemple, 3 ou 4 ans seulement après leur publication. Notamment grâce à ce facteur qu'on constate de plus en plus d'adaptations, même si le scénario original reste quand même important.
Donc il y a des éléments concrets dont vous nous parlez là justement, des sociétés, des organisations qui existent donc pour faciliter ce lien producteur-éditeur. Alors aux États-Unis, cette facilitation existe depuis fort longtemps et est-ce que finalement en France on est face à un effet de mimétisme?
Alors, aux États-Unis, l'adaptation est un phénomène encore plus massif qu'en France. Hein. On le voit chaque année avec... par exemple, la vague de nominations aux Oscars, où on peut constater que plus de la moitié, même 60-70% des films qui sont nommés sont des adaptations. Et en fait, là-bas, on a de véritables agences spécialisées qui travaillent à négocier des contrats d'adaptation dès la planification d'un roman, ce qui aboutit à une sortie qui est parfois presque simultanée, ou du moins à quelques mois d'intervalle, du film et du livre. Et donc, c'est beaucoup plus massif encore qu'en France. Alors, il y a par ailleurs, aux États-Unis, il y a des phénomènes qu'on n'a peut-être pas encore, mais des auteurs véritablement stars qui vont générer quasiment leur propre franchise d'adaptation cinématographique et télévisuelle. Par exemple, Michael Connelly ou Tom Clancy. Alors, on est encore très loin de cette situation en France, même si commencent à apparaître ici aussi des agents spécialisés qui vont œuvrer au rapprochement entre auteurs et producteurs. Par contre, il y a une petite spécificité française, qui est le nombre assez important d'auto-adaptations. C'est-à-dire que l'auteur va réaliser ou co-réaliser son propre roman.
Et justement, cette même étude du CNL nous apprend que, alors en Europe, effectivement, sans parler des États-Unis, la France est championne de l'adaptation. Alors comment est-ce qu'on peut la comprendre? Est-ce que c'est parce que de toute façon, la France produit peut-être plus de films que le reste de l'Europe? Ou est-ce que c'est peut-être parce qu'il y a un amour du livre, une envie de voir les livres sur l'écran?
Alors oui, il y a effectivement ce nombre de toute façon important de films qui est réalisé, produit en France. Mais c'est vrai que ce que je disais par rapport à l'auto-adaptation, par exemple, c'est assez intéressant. C'est un phénomène qu'on a peut-être moins dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'un auteur va publier un roman et puis, quelques années après, réaliser ou co-réaliser l'adaptation de son roman. Avec des cas bien connus comme Entre les murs de François Bigaudeau, Persepolis de Marjane Satrapi, ou cette année, le film Miséricorde d'Alain Guiraudy, alors qui est partiellement adapté de son propre roman paru en 2021. Donc là aussi, c'est un phénomène qui est quand même assez important et qui montre l'acquaintance de plus en plus importante entre cinéma et littérature, même si ça a toujours été, on pensait à Marguerite Duras ou beaucoup d'auteurs du nouveau roman qui ont aussi écrit pour le cinéma ou même réalisé des films.
Mais c'est vrai qu'en France, là, on observe vraiment un retour un peu des œuvres épiques. Alors, il y a les livres de Dumas, évidemment, on pense au Comte de Monte Cristo, aussi aux Trois Mousquetaires, là, il y a pas longtemps. Il y a eu Balzac aussi, il y a pas si longtemps. Et donc, est-ce que finalement, cette propension à aller vers des grandes fresques montre une frilosité aussi des producteurs à aller vers des œuvres originales?
Alors, c'est vrai qu'on peut évidemment attribuer ce retour de l'adaptation de romans classiques du 19e siècle, par exemple, hein, avec les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo, une volonté de capitaliser sur des récits qui sont très connus. Et effectivement, peut-être une frilosité envers le scénario original, qui est une prise de risque plus importante, hein, par définition, une histoire qui n'est pas encore vraiment pitchée auprès du grand public, hein, pour l'interne scénaristique. Mais c'est aussi peut-être, en tout cas dans ce retour d'adaptation, alors en fait à vraiment gros budget, de grands romans du 19e siècle, donc Illusion perdue, l'année dernière Le Comte de Monte Cristo, il y a peut-être une tendance à essayer de faire revenir les spectateurs dans les salles de cinéma après la pandémie de Covid-19, et surtout un public transgénérationnel et familial. D'une manière générale, on a beaucoup de films qui sortent dans les salles qui s'adressent souvent à un public large, mais quand même assez ciblé. Les adolescents, jeunes adultes d'un côté, ou alors un public un petit peu plus mûr et amateur de cinéma d'art et essai. Et en fait, avec Le Comte de Monte Cristo, par exemple, on va attirer aussi bien des jeunes spectateurs, en capitalisant sur la notoriété de Pierre Niney, par exemple, et qui aiment les blockbusters d'aventure. Et en même temps, on va attirer peut-être des générations un petit peu plus âgées qui ont déjà vu des adaptations précédentes des romans de Dumas. Et puis aussi bien donc un public amateurs d'aventures et de blockbusters que de littérature.
Et finalement, alors, où se trouve la place des scénaristes dans l'adaptation? Est-ce que la création pour les scénaristes se situe toujours dans le cinéma?
Alors, c'est vrai qu'il faut quand même garder en tête que les scénaristes sont toujours présents dans le processus d'adaptation d'un texte pour l'écran, ils sont même très importants, mais on peut s'interroger avec cette massification d'un cinéma qui est très dérivé sur la place du scénario original et donc la fonction du scénariste. C'est vrai hein, que les scénaristes peuvent trouver de nouveau une place importante avec d'autres formats comme la série. Et c'est intéressant d'ailleurs de remarquer que là où à une époque, un scénariste commençait par la télévision avec l'ambition de faire plus tard pour le cinéma, et là on voit maintenant un peu à l'inverse des scénaristes qui vont vraiment plébisciter le format de la série ou y revenir après avoir travaillé pour le cinéma. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on a de nombreux écrivains qui, eux, se lancent avec enthousiasme dans l'écriture de séries. Mmh. Avec des scénarios originaux, ou encore une fois, par cette dimension auto-adaptation, même des écrivains qui ont le prix Pulitzer, hein, comme Jennifer Egan ou Michael Chabon, qui travaillent avec HBO, puis des poids lourds comme Stephen King ou Salman Rushdie, qui ont récemment, ou moins récemment, franchi le pas. Hein. Et donc, effectivement, le format long de la série, qui donne aussi un petit peu plus de sécurité financière aux scénaristes, représente un attrait vraiment très très important.
Merci Jessino.
Je vous remercie, au revoir.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, il faudra bientôt un billet à part pour voir la Joconde.
Et oui, c'est ce qu'a annoncé Laurence Descartes sur France Inter ce dimanche. La présidente directrice du Louvre a en effet confirmé qu'un billet supplémentaire, en plus de celui pour entrer au musée, serait bientôt nécessaire pour admirer Mona Lisa. Pas de date précise cependant concernant cette mesure qui entrera en vigueur lorsque la toile de Da Vinci sera déplacée dans un nouvel espace du musée, sans doute sous la cour carrée, d'ici 2031.
Cinéma à présent, le film Toute pour une, ciblé par une campagne de dénigrement massif en ligne.
Réalisé par Ouda Benyamina, Toute pour une est une adaptation féministe des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Mais depuis sa sortie en salle le 22 janvier, le film subit une vague de commentaires haineux de la part d'internautes, critiquant notamment le fait que les quatre héros soient interprétés par des actrices d'origine maghrébine. Devant l'ampleur de commentaires virulents et de notes extrêmement basses laissées sur Allociné par de nouveaux comptes, le site a décidé de supprimer l'espace de notation dédié aux internautes pour ce film. Ce dernier était en effet majoritairement noté par des gens qui ne l'avaient en fait pas forcément vu.
Et pour finir, Sophie Catherine, Disney va pouvoir diffuser sur sa plateforme les films 9 mois après leur sortie en salle.
Oui, la modification de la chronologie des médias qui définit l'ordre et la temporalité de diffusion des films selon les supports va fortement bénéficier aux géants du divertissement états-unien. Alors qu'il fallait attendre 17 mois pour qu'un film sorti en salle puisse être visionnable sur la plateforme Disney+, il faudra à présent 9 mois seulement pour que cela soit possible. En échange de cette nouvelle temporalité, l'entreprise s'est engagée à accroître ses investissements dans la production production cinématographique et audiovisuelle française. Disney investira désormais 25% de son chiffre d'affaires annuel en France et financera la production d'au moins 70 films sur une période de 3 ans.